Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de pas fin de séance. Pas exactement. Alors, vous avez pu le remarquer, il y a eu une pause qui a été faite dans les épisodes de fin de séance parce que ben on était un petit peu tous assez occupés, moi particulièrement Areski, hein, c'est Areski qui parle, salut. Il fallait que j'alloue un petit peu plus de temps sur d'autres aspects de ma vie, notamment du stand-up et puis mon déménagement imminent pour Paris. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des plans appartements pour Paris à partir de septembre, n'hésitez pas à tout envoyer sur finseance@gmail.com. Le mec règle ses problèmes administratifs par podcast. Bref, tout ça pour dire que le podcast fin de séance était devenu un poil trop chronophage par rapport à mon agenda, spécialement avec la phase du montage qui était obligatoirement un peu longue puisqu'on enregistre tout sur trois pistes différentes, puisque à chaque fois que vous écoutez, ou presque à chaque fois que vous écoutez un épisode de fin de séance, il faut savoir qu'on est sur trois lieux différents, Arnaud, Jean-Yves et moi. Donc je me suis dit, faisons une pause pour fin de séance et on reprendra des épisodes quand on pourra faire ça avec le maximum d'intervenants en présentiel. Hein, mot utilisé exclusivement par les gens qui font des PowerPoint. Ce n'est donc pas la mort de fin de séance et on reviendra assez rapidement, probablement depuis Paris, et même avant ça, peut-être avec des épisodes fin de série, où on va se concentrer sur les séries avec Camille, Ludovic et Fela, que vous avez déjà pu entendre dans les deux autres épisodes spéciaux. Mais alors, pourquoi cet épisode ? Parce que Arnaud Decaze, notre Arnaud, est devenu en manque complet de discussions cinématographiques. Fin de séance l'a rendu toxicomane. Et comme je le dis tout le temps, quand vous avez un problème, il faut le régler en créant un podcast. Et c'est ce qu'il a fait, et donc voilà, cet épisode, c'est l'épisode spécial qui va vous dire d'écouter le super podcast 3e rang que vous pourrez retrouver sur iTunes, sur SoundCloud, exactement comme fin de séance. Et justement, le premier épisode, c'est pour parler de Phantom Thread avec Alice Bégon, que vous avez déjà plusieurs fois entendu dans fin de séance, et Amina, et ça parle également de plusieurs autres films. Je vais même laisser un petit peu de l'intro de ce premier épisode, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller le chercher sur votre application de podcast préférée pour souscrire à 3e rang. Bisous à tous et à très bientôt.
Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de 3e rang. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Twitter, SoundCloud, iTunes, à nous mettre des commentaires en bas de la vidéo. Et voilà, pour ce premier épisode, on a décidé de parler du film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, qu'on attendait avec impatience. Et je vous souhaite une bonne écoute.
Moi, je suis allée voir La forme de l'eau, voilà, film qui a gagné donc le dernier Oscar du meilleur film. Et je l'ai vu avant cet Oscar, je tiens à le dire, parce que généralement, quand un film gagne l'Oscar du meilleur film, je sais que je vais pas aimer. Il y a une corrélation entre les deux, régulièrement. Et je suis allée le voir, et en fait, c'est un film que j'avais très très envie d'aimer au départ. Il y a tout qui me plaisait dedans, Guillermo del Toro, le casting, le sujet. Et j'ai été prise d'un ennui sympathique, mais très présent, persistant. Et ce que j'expliquais à Amina le lendemain, ou le jour même d'ailleurs, quand je l'ai vu, c'est que ça m'a évoqué un concept que j'avais pas trouvé encore pour les films. J'ai friendzoné ce film. C'est-à-dire qu'il avait tout. On avait tout pour se plaire. J'ai toujours rien. Si, j'ai des choses quand même concrètement à dire sur le film que j'ai moins aimé, notamment sur le personnage principal qui est donc cet homme poisson, qui est pas très développé. Mais quand même, je pense qu'il y a une sensibilité dans le film, et normalement chez Guillermo del Toro, qui m'aurait permis d'être ému, et qui là vraiment est pas arrivé jusque moi, et voilà. Ouais. D'où le concept du friendzonage du film.
C'est-à-dire que même si on essaye de te forcer, t'arriveras pas à l'aimer.
Non, oui, et ça me fait un peu mal au cœur quand même, parce que j'aurais aimé l'aimer par certains aspects, j'y arrive plus ce soir. Hein. Mais j'y arrive pas. Mais je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais, non, mais. Je suis à peu près d'accord avec toi sur le film, c'est-à-dire que je pense que le film passe énormément de temps sur ses personnages secondaires, parce qu'il a un discours derrière à vouloir en fait présenter un petit peu tous les marginaux de la société. Donc on va avoir un homosexuel, une noire, une handicapée, un homme poisson aussi. Oui. Et,
un monstre, on va dire plutôt.
Ouais, un monstre et l'antagoniste qui est l'incarnation de la masculinité toxique, on pourrait dire, dans ce, oui, dans ce film, la manière dont il le joue, etc. Ce qui fait que le film passe énormément de temps à essayer de développer les drames de tous ses personnages principaux et à oublier un petit peu son histoire d'amour, en fait, entre l'héroïne et ce monstre aquatique. Et ce qui fait que le monstre, en fait, met très très longtemps à avoir une personnalité. Pendant toute la première partie du film, on ne le voit pas du tout agir. Et du coup, c'est très compliqué, en fait, de se projeter dans le point de vue de l'héroïne, puisque on voit très bien pourquoi le monstre tombe amoureux d'elle, mais on voit beaucoup moins pourquoi elle tombe amoureuse du monstre, bah, en fait.
En fait, aussi, on nous l'explique d'une certaine manière, parce qu'il la regarde, elle qui est sourde et muette. On la prend pour un monstre dans la société. Bon, elle fait le ménage, elle est considérée, on nous la montre comme une citoyenne de deuxième classe, hein, pour être un peu schématique. Et donc le monstre, c'est le premier à la voir et à communiquer avec elle, c'est-à-dire qu'à apprendre sa langue, parce qu'elle parle, elle a une langue, elle a la langue des signes, mais en fait c'est le seul à apprendre la langue, parce que même son amie, elle lit sur les lèvres, ou non, elle peut entendre, hein, donc c'est un problème de voix qu'elle a.
Oui, mais c'est non, ça, elle a... et ses deux amis qui sont son voisin et sa collègue de travail, en fait, comprennent le langage des signes, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que généralement, ces deux amis, en fait, sont surtout en monologue avec elle, c'est-à-dire, oui, parlent d'eux, mais écoutent très peu Elisa, jusqu'à une scène qui d'ailleurs est très très belle, très bien interprétée par Sally Hawkins, où c'est la première fois en fait où elle s'exprime vraiment, où elle essaie de convaincre son voisin de l'aider à sauver ce monstre. Et il y a une scène en fait où elle signe ce qu'elle veut lui dire, et son voisin dit à voix haute en fait ce que signifie ce langage des signes. Donc il n'y a pas de sous-titres, ce que font la plupart des films, oui, en fait, avec des sourds-muets. Là, il n'y a pas de sous-titres, et c'est juste la performance de Sally Hawkins qui fait passer cette espèce de frustration de ne pas pouvoir communiquer. Et ça, je trouvais que c'était une scène très très réussie pour le coup.
Oui, mais elle est limitée en fait. C'est un moment, et on retrouve surtout pas ce mouvement-là dans sa relation avec cet homme poisson. Et ce qui fait que j'arrive pas. Effectivement, j'ai pas le moment où il tombe amoureux. C'est-à-dire que il apprend très vite le langage, bon, très bien. Mais j'ai pas ce moment que j'attends aussi quand même dans le genre, hein, une comédie romantique, où je comprends ce qui l'attire particulièrement chez lui et lui particulièrement chez elle, en fait. À part ce qu'il est.
Parce qu'il est très peu actif. C'est-à-dire que même, tu vois, il est enchaîné, il se fait taper par Michael Shannon en permanence. Il y a même pas une résistance active à ça qui ferait qu'elle pourrait être impressionnée, tu vois. Par en fait, il a très peu de capacité d'action, ce monstre, pendant la moitié du film, quoi.
Alors moi, j'ai pas vu. Alors qu'il est censé quand même avoir des pouvoirs magiques.
Ouais,
quand
ouais.
Même,
ouais.
Hein.
Alors moi, j'ai pas vu le film, mais ce que j'en retiens, c'est que le concept de friendzone est vraiment appliqué dans ce film-là, puisque on entend à ma gauche que le personnage principal n'est pas actif, et on entend à ma droite que ce film manque de côté charnel, en fait. Donc ouais, je comprends que tu l'aies friendzoné.
Oui, c'est. Parce qu'on n'a pas. En fait, c'est le film s'attarde plus sur le personnage secondaire qui est interprété par Michael Shannon, espèce de méchant absolument génial, en fait. Des méchants qu'on aime, hein. C'est-à-dire qu'on adore les détester, ils ont tout, en fait. Ils sont tellement faciles à détester, ça manque tellement de nuances.
Encore ça pourrait, parce que ça, il ressemble énormément à un autre personnage de la filmographie de Del Toro qui était le je me rappelle plus son nom, mais le capitaine franquiste dans le labyrinthe de Pan, ouais, interprété par Sergi Lopez. Et dans Sergi Lopez, c'était ce qu'il y avait d'assez beau, en fait, c'est que cette petite fille voyait des monstres et que le véritable monstre, en fait, c'était ce Sergi Lopez qui faisait peur, quoi, qui était une incarnation du mal. Et il y a un côté qu'il a jamais relié, c'est-à-dire il a une écriture très mythologique, tu vois, Guillermo del Toro. Il essaie de créer une mythologie, et donc il faut qu'il y ait une incarnation du mal ultime, tu vois.
Oui, mais c'est cet homme, Dieu, quoi, il représente aussi la mythologie, mais on ne sait rien de lui. C'est-à-dire que, même moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'a pas de nom. Alors, on ne parle pas du nom. Normalement, c'est quand tu t'intéresses à quelqu'un, elle va chercher... Il n'y a pas la scène où elle essaye de le nommer,
comme dans E.T., comme dans E.T.,
exactement. Et il n'y a pas cette recherche-là, et... On apprend, mais vraiment de manière très éloignée, que c'est peut-être un dieu, et encore, on n'est pas tout à fait sûr, et cette histoire de pouvoir magique arrive à la fin, mais plus comme un deus ex machina qu'autre chose.
En fait, je crois vraiment que j'aurais aimé un peu moins d'intrigue sur les personnages secondaires, et un peu plus sur Elisa et le monstre.
Oui,
quoi.
Parce que ce qui fait que moi, je passe complètement à côté de cette fin, qui pourrait être, en fait, qui est extrêmement belle, mais je dis, bon, bah, ça reste très théorique ouais. Quand je regarde le film. Donc voilà, La Forme de l'eau.
Amina ?
Alors moi, je n'ai pas vu La Forme de l'eau parce que je voulais voir un film français. J'ai vu Le Retour du héros avec Mélanie Laurent et...
Jean Dujardin.
Et en fait, j'ai bien aimé les deux premiers tiers du film, ce qui m'a surpris un peu parce que j'en attendais pas grand-chose, mais j'ai bien aimé la bande-annonce. Je m'attendais à un truc peut-être mieux que ce que Mélanie Laurent plus Jean Dujardin laissait sous-entendre. Mais au final, moins bien que ce que les deux premiers tiers ont laissé croire. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de ce film, si ce n'est qu'il m'a surpris dans les
Moi, j'ai une question, peut-être, parce qu'une des choses que j'aimais bien dans le projet du film, après je ne suis pas allée le voir, c'est peut-être une tentative de renouer un peu avec le film
ouais,
de KPDP.
Ouais, il y a un truc...
Que moi, qui est un genre que j'aime bien, très français, mais qui
ouais,
peut
c'est
être
vrai,
assez drôle. Et
c'est vrai, c'est ça qui m'avait...
Qui amène souvent des répliques assez enlevées, des choses...
Exactement, c'est ce qui m'avait donné envie d'aller le voir, c'est qu'il y avait, un antagonisme clair entre deux personnes qui étaient attirées amoureusement, et dans du film de costume, du film enlevé, du film français, où on aime bien être un peu... gaulois, un peu rabelaisien, et ça c'est assez réussi.
On l'avait retrouvé chez la fille de D'Artagnan qu'on a
oui, c'est vrai, c'est
sur
vrai.
Un malentendu toutes les deux un soir. Et on a
je crois que c'est la fille de D'Artagnan qui m'a donné l'impulsion d'aller voir Le Retour du héros. Et le seul truc, c'est que tu vois, la grande réussite de Retour de la fille de D'Artagnan, c'est qu'il y a tous les quarts d'heure ou les seins de Sophie Marceau en alternance avec une bonne blague à papa.
Oui.
Ce qui est quand même, je pense, la recette de la réussite. Alors que là, dans Le Retour d'un roi, il manque...
Du héros. Le Retour d'un roi, je pense que t'as fait un mix entre le discours d'un roi, le Anna et le roi, et tous ces films du dimanche soir qu'on regarde un peu honteusement, régulièrement.
Mais finalement le Retour du héros, c'est un peu un film du dimanche soir. La seule chose qui lui manque, c'est peut-être ça... plus de chair bien réglé tous les quarts d'heure, tu vois.
Okay. En fait,
c'était quand même un film plutôt agréable à regarder, en tout cas rafraîchissant et surprenant.
Ce qui m'a plu, c'était que c'était le retour des Dujardineries, c'est-à-dire depuis un petit moment, j'ai l'impression que Dujardin essaie de se faire passer pour un acteur sérieux. Et en fait, il faisait plus en fait tout ce qui faisait que je l'avais aimé dans sa première partie de carrière, c'est-à-dire ce truc complètement excessif, ce côté théâtre de boulevard en fait poussé à son extrême, une vraie technique de jeu en fait qu'il a de faire passer des choses, d'être très très drôle autour de ça, de jamais se prendre au sérieux.
Que j'ai retrouvé aussi. Il essayait de reprendre du Belmondo, mais qui était plutôt réussi, moi je trouvais d'avoir cet héritage là, d'être un acteur.
Et la bonne nouvelle de ce film, c'est qu'on retrouve ça en fait ici. C'est vraiment il est aussi bon qu'il l'avait été à l'époque.
Il est dans le caractère, oui.
Qui est même soutenu par une mise en scène très théâtre de boulevard aussi pour le coup, qui trouve toujours des petites trouvailles, un peu comme quand on va voir un Fedot au théâtre, que c'est bien monté, qu'on voit des petites trouvailles de mise en scène qui accentuent l'humour, qui font des choses. C'est pas très psychologique, mais c'est parce qu'on lui demande en fait. Tu vois, c'est vraiment dans l'action, dans le chose. Et je l'ai trouvé plutôt réussi pendant les deux tiers du film, et je trouve le dernier tiers du film catastrophique. C'est-à-dire que autant scénaristiquement, même les choses se tenaient pendant ces deux premiers tiers, il y avait une vraie construction, une vraie ironie dramatique qui était mise en place, des vraies choses, et dans son dernier tiers, j'ai l'impression que le film fout tout en l'air pour raconter un peu n'importe quoi.
Oui, parce que ça va très vite en fait, il y a eu une confusion de rapidité et de vitesse, je crois. Et du coup, ça allait vite pour donner l'impression que c'était un peu l'acmé du film et qu'on atteignait le moment, ce qui aurait dû être le moment le plus haut en termes d'émotion, d'excitation et de vitesse du film, ce qui en réalité n'est pas le cas parce qu'il y a peut-être un petit truc de... Ouais, peut-être là aussi un petit manque d'incarnation Voilà, je pense qu'ça allait juste beaucoup trop vite et ça a été, la vitesse a été confondue avec le rythme là. Okay. Mais sinon, ça reste un film vraiment drôle. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu au hall et autour de nous, il y avait des gens qui étaient vraiment morts de rire et ça me faisait très longtemps que j'étais pas allée dans une salle de cinéma et que j'avais entendu autant de rires sincères. Donc voilà, c'est que le film devait être réussi au moins à ce niveau-là.
Et moi, je suis allée voir La Forme de l'eau un dimanche matin à 9h40 et écoutez, la salle était pleine et je me suis rendu compte qu'il y avait une vie avant 10h à Paris.
Ça a été
un grand choc.
J'ai encore du mal à te croire en fait.
Oui, j'aurais dû prendre une photo, mais.
Est-ce que tu peux documenter cette découverte?
Il y avait tous les âges en fait. C'était même pas une catégorie spéciale.
Tu veux dire que c'était pas que des vieux?
Exactement.
Bien. Bon, moi, j'avais envie de parler de Call Me by Your Name de Luca Guadagnino.
Ah, vous
l'avez
vu?
Ouais. Qui raconte l'histoire d'un premier amour en fait entre un adolescent de 17 ans et puis un étudiant qui doit avoir 24-25 ans, quelque chose comme ça. Ça se passe dans le nord de l'Italie lors d'un été dans une famille bourgeoise dans les années 80 et moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui m'a en fait c'est l'histoire d'amour m'a vraiment touché et surtout en fait ce que ça développait derrière cette idée presque de la nostalgie de quelque chose qui était en train de passer que je trouve que le réalisateur capte plutôt bien. Je sais qu'Alice l'a vu aussi et est un peu plus réservée sur le film, peut-être que tu...
Oui, j'ai pas tout à fait le même avis. Ça reste, moi j'ai, bon déjà le scénario, c'est un scénario de James Ivory qui a d'ailleurs gagné aussi l'Oscar hein, cette année là-dessus.
Ouais, donc James Ivory qui est ce réalisateur de la fin des années 80, début des années 90 qui a sorti tous ses films très flonflon du cinéma anglais, Retour à Howard's End, Maurice, Chambre avec vue.
Chambre avec vue, surtout c'est son plus connu et moi j'aime beaucoup Chambre avec vue et Retour à Howard's End. Qui s'est fait massacrer d'ailleurs beaucoup de ses montages par Harvey Weinstein, c'est un des premiers à avoir parlé quand même des actions assez grotesques de ce producteur-là sur les montages des films. Donc on retrouve tout ce qu'on a aimé dans ces films, c'est-à-dire sauf que lui il les mettait, c'était des films d'époque. Là aujourd'hui on se rapproche un peu des années 80 et il y a quand même on parle de la fin d'un monde, c'est-à-dire qu'on est quand même à la limite. Cette histoire d'amour se joue à la limite de la période, on va dire au début de l'épidémie du sida. Je pense que c'est important. Donc il y a vraiment aussi la fin d'une innocence globale aussi dans ce couple-là, qui est quand même situé. Je sais pas si dans le livre d'ailleurs, si c'est situé.
J'ai pas lu le livre moi.
Mais... Exactement à cette période-là, mais on est vraiment tout à la fin du moment où cette histoire d'amour existe sans la chape de l'épidémie qui va arriver quand même sur cette communauté et qui va rendre les choses encore plus difficiles en fait. On est à un moment où on est à la sortie des années 70 où quand même être homosexuel, quoi, il y a eu quand même pas mal de mouvements là-dessus les années 80 qui commencent et qui vont avoir après malheureusement la suite qu'on connaît sur cette communauté là.
Mais il y a aussi quand même quelque chose de plus universel sur la jeunesse en général, parce que ça veut en tout cas parler du premier amour. Et c'est vrai que vu du point de vue de l'âge adulte, quand on voit les adolescents se débattre dans ces premières histoires, il y a un côté presque marrant de voir à quel point en fait ça a une importance capitale, alors que vu du point de vue de l'âge adulte en fait ça a pas l'air d'être quelque chose de si important que ça, c'est un amour de jeunesse, tu vois,
c'est quelque chose qu'on
traverse tout ça, et ce film en fait essaie de dire que justement peut-être que ceux qui ont tort c'est les adultes qui regardent ces amours et que ce qui est important en fait c'est cette violente passion des débuts. Et c'est
les adultes dans le film en tout cas défendent beaucoup et protègent énormément cette première histoire d'amour,
mais justement c'est ce que je dis, voilà, contrairement à beaucoup d'autres films, tu vois.
Oui, en tout cas, c'est effectivement... En tout cas, les adultes, ils sont aveugles. Et ce qui est beau, c'est que là, les adultes ne le sont pas. Ils sont, en tout cas, témoins et témoins bienveillants. C'est-à-dire que souvent, on va opposer les adolescents et les adultes aveugles et pris dans leur vie.
C'était très bien montré dans la meilleure scène du film, moi, je trouve. Donc, celui qui interprète le père, c'est Michael Stuhlbarg. Qu'on connaît, on l'a connu surtout à partir de Serious Man des frères Cohen. On l'a beaucoup vu récemment puisqu'il jouait aussi dans La Forme de l'eau et dans The Post de Steven Spielberg. C'est un acteur que je trouve assez génial.
Merveilleux, hein.
Qui est pas du tout, qui fait pas du tout partie de ces acteurs de la méthode, tu vois. C'est-à-dire que quand je le vois dans un film, il joue un petit peu toujours de la même manière, mais je sens en fait une technique très très raffinée, tu vois.
Mais c'est un second couteau, surtout, qui est beaucoup utilisé comme un acteur de support qui rentre dans The Post, et c'est révélateur. Moi, je trouve que c'est vraiment le film où on a des mastodons d'Hollywood qui sont là, et donc on peut pas mettre n'importe qui en face. Et lui, typiquement, il
est assez solide.
Il est assez solide, et en même temps, il a pas ce... En tout cas, il n'a pas encore trouvé le rôle, malgré les frères Cohen, hein, qui allaient lui donner cette espèce de polish, de vernis hollywoodien, de performance. En fait, on ne sent pas de la performance. C'est quelqu'un d'extrêmement technique, effectivement, qu'on va retrouver plus ou moins dans les mêmes rôles, mais qui... Ben, qui...
Et il arrive vraiment à faire passer, parce qu'en fait, il dégage vraiment quelque chose, un mélange, je trouve, de profonde tristesse et de bienveillance. Et à la fin du film, il a un monologue qu'il adresse à son fils, que je trouve bouleversant. Et la manière dont il le joue, en fait, il évoque justement ses idées d'amour de jeunesse, etc. Et la manière dont il le joue, c'est pas dit dans le texte, mais on sent en fait tout le passif de ce père. On sent en fait ce qui a pu se passer dans sa jeunesse. On sait pas exactement quoi, mais il arrive à faire passer ça. Et c'est un moment, moi, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bouleversant pour le coup. Hein.
Bah, disons qu'effectivement, plus qu'un film sur la fin de l'adolescence, ce qui est, ça l'est pas en fait, on le quitte pas à la fin de l'adolescence, on le retrouve, le film avance et on le retrouve un an plus tard quasiment pareil. C'est moi je dirais plutôt c'est la fin d'un monde, d'une innocence un peu globale, moi je l'ai surtout vu comme ça. Et c'est vrai que le père est un personnage important là-dessus parce que lui-même c'est celui qui exprime cette plus grande nostalgie grâce à cette scène de fin. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il y a de précieux à vivre ces moments douloureux et heureux, et surtout que cette douleur, il fallait y aller, qu'elle était importante, qu'elle était tout aussi belle. Et ça, c'est vrai que c'est assez bouleversant. Après, moi, ça m'a vraiment... Je trouve que sur la première moitié du film, le film effleure tous ces sujets sans rentrer réellement. C'est pas un film qui prend de parti. Donc j'ai trouvé ça agréable à regarder, mais il n'y avait jamais de...
Est-ce que c'était pas un peu l'anti-dernière séance de Bogdanovitch qu'on a vu il y a pas longtemps ensemble, Alice ?
Effectivement,
où,
ouais.
En fait, dans la dernière séance, on montre un peu les histoires d'adolescents, les histoires d'amour d'adolescents, et comment, en fait, parfois, les adultes, ils viennent dynamiter ça, pourrir ça un peu.
Non, parce que dans la dernière séance, il y a aussi l'idée d'un monde complètement pourri et irrattrapable, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, c'est une beauté italienne. On est dans la beauté classique italienne de ces paysages absolument sublimes, dans une maison où tout est impeccable de désordre et c'est intellectuel, tout est de bon goût et il y a la poussière qu'on aime sur les livres, il y a les références que l'on aime.
C'est une parenthèse dans le monde, presque, cet endroit.
Dans le monde. Et moi, il y a beaucoup de gens qui pourraient lui reprocher ce dire c'est des bourgeois qui parlent entre eux, mais très bien, faisons un film sur la bourgeoisie, c'est pas forcément des gens parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont des capacités intellectuelles que ce sont des gens horribles. Au contraire, il y a une beauté, moi je trouve ça bien de défendre des intellectuels et d'en faire des personnages intéressants et
ce aimables. Ce que fait très bien le cinéma italien d'ailleurs.
Parce qu'en plus, ce qui est assez beau dans ça, c'est qu'en creux, parce que finalement on apprend donc de son côté, de la famille du plus jeune, on voit très bien que l'homosexualité c'est quelque chose qui est très accepté. Ils ont des amis homosexuels qui vivent ensemble depuis longtemps, qui viennent visiter la maison, etc.
Tout simplement, ils encouragent complètement cette
relation. Et puis après, on apprend que par contre, celui dont il tombe amoureux, cet étudiant, il est dans une famille, il vient d'une famille beaucoup plus conservatrice. Et on le sent comme ça en creux, sans jamais le voir, que de son côté, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et en fait, ce qui est assez beau dans le film, justement, c'est de montrer cet endroit presque comme une utopie de ce qui pourrait être, tu vois.
Je trouve que, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments, par exemple, le réalisateur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de ses films autour de la nourriture et des repas. Moi, c'est des scènes que j'aime beaucoup dans les films et qui sont très difficiles. Hein, et par exemple, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu se passer, il aurait pu recentrer toute la première partie de son film plutôt là-dessus, sur la façon dont les parents reçoivent, parce que tout l'été, en fait, ils accueillent cet étudiant. Stagiaires, mais ils accueillent aussi toute l'intelligentsia italienne et donc le repas a de l'importance, ils sont servis, il y a des enjeux, il y a des discussions intellectuelles, et je trouve que le film se perd à essayer quand même de montrer que le personnage qui interprète, donc Elio, qui est interprété par Timothée Chalamet, va quand même essayer de s'intéresser aux adolescents. Il y a tout un groupe d'adolescents qui existent, puis qu'on perd après. Et moi, qui m'apporte rien dans le film, j'en ai pas besoin, je trouve que le film se perd dans ces histoires-là. J'aime la fulgurance, à la limite, de l'histoire d'amour qui vit avec une jeune fille, dont on a besoin aussi, parce que pour sa rencontre avec Oliver. Mais sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de digressions autour de ce groupe qui, moi, ramollissent vraiment. J'ai l'impression que le film était mou par endroits, et ça reprend un peu du nerf quand c'est évacué, quand on se reconcentre sur leur histoire d'amour à eux. Après, je pense que c'est pas un film qui... Je l'ai vu, je suis pas sûre qu'il me reste encore beaucoup d'images, à part quelques scènes que je trouve très belles. Je pense qu'il y a des erreurs de casting par moment. Je pense que Timothée Chalamet, effectivement, c'est un acteur sûrement en devenir, mais qui est un acteur enfant, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il a commencé très tôt, il vient et c'est un acteur qui est énormément dans le contrôle, et ça me dérange beaucoup. J'aurais préféré avoir un acteur peut-être plus fragile, techniquement, mais qui se laisse découvrir. Et je vois une maîtrise absolue de la part de Timothée Chalamet, et qui ne me convient pas tout à fait avec ce personnage-là, en fait. Et en face, on a Armie Hammer, qui joue Oliver. Et pareil, il me manque un tout petit peu... J'ai pas arrêté de penser à quel autre acteur aurait pu interpréter ça, et peut-être on avait pensé avec Arnaud justement à Matthew McConaughey, qui aurait pu faire ça à un moment jeune, ou même à Matt Damon.
J'ai une petite passion pour Matt.
Ouais, mais oui, quelqu'un qui en tout cas arrive à intégrer à son interprétation quelque chose d'un peu moins lisse, qui aille au-delà de... Et je pense que Armie Hammer, donne énormément. Il a de la volonté, mm-hmm. mais pour moi, il n'y parvient pas.
Parce qu'il lui manque un petit côté pâteau, c'est ça?
Chez Matt Damon, jeune, il y avait quand même une espèce de... Il y avait une beauté physique qui était présente, qui était là et indéniable.
Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que l'amour que Elio lui porte, je le vois... Mais l'inverse, je le vois beaucoup moins, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à voir dans son regard de l'amour pour la personne qu'il est censé aimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez difficile à exprimer pourquoi ou comment, mais j'ai du mal à ressentir son désir à lui, en fait, dans le film.
Peut-être à cause du contrôle, non? Allez se parler.
Oui, il y a quelque chose où je le sens très bon élève dans son interprétation. Ouais. Je sens vraiment qu'il a envie de casser l'image très lisse. On l'a vu dans The Social Network, hein, donc c'est lui qui faisait les jumeaux. Pourtant, c'est sur le papier, c'était un bon choix. C'est-à-dire qu'il représente il représente l'Amérique à lui tout seul, physiquement. C'est bien élevé, c'est costaud, c'est bien bâti.
C'est nourri au bout.
Et on a envie de voir cette personne tomber. Le temps d'un été en Italie, s'ouvrir un peu à son réel désir et casser cette image qu'il essaye de construire très fortement avec l'amour qu'il a pour ce jeune homme, mais qui est très différent de lui. Mais ça, je l'ai pas, et je pense que c'est deux acteurs qui se donnent beaucoup de mal, qui sont très appliqués, mais qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau. On parlera, je pense que c'est le bon lien de faire c'est pas un Daniel Day-Lewis, quoi, et peut-être qu'il aurait fallu au moins un des deux acteurs capables d'être de la trempe d'un Daniel Day-Lewis pour que cette histoire-là décolle.
Alors justement, on va en profiter alors.
J'essaie de faire la transition.
Magnifique transition. Donc on va parler de maintenant le film de la semaine, qui est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps et Leslie Manville. Alors, pour le synopsis, dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute société, avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la fois de muse et de compagne, jusqu'au jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près. You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Les prénoms sont bien choisis dans ce film, je trouve. Alma, c'est assez transparent, c'est l'âme. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a d'abord frappé dans Phantom Thread, c'est l'excursion que représente ce film dans l'intérieur, en fait. On voit qu'elle le frappe littéralement au creux de son âme, quoi. Tout se passe beaucoup à l'intérieur, et c'est pour ça que je trouvais que c'est
d'ailleurs
assez...
D'ailleurs, le titre le rappelle, parce que Phantom Thread, c'est le fil fantôme qui cache des messages à l'intérieur des doublures, donc des robes qu'il fait, des messages comme... conversation secrète avec son modèle ou avec sa... Je pense d'ailleurs qu'il s'agit plus
avec
de la
sa
femme
mère qui... aussi.
Avec sa mère, et aussi je pense avec les femmes, pour qui, parce qu'il fait donc, il a, c'est un couturier, donc il fait des robes pour des clientes, c'est pas du prêt-à-porter, faut bien différencier ça, c'est-à-dire que chaque robe va être faite pour une personne et pas une autre. Mmh. Et donc je pense qu'il y a un dialogue qui se crée, effectivement, secret, caché.
Et alors il y a autre chose, il en avait parlé en fait de l'origine de ce... Alors Phantom Thread, c'est un symptôme dont on parlait, de couturières qui faisaient ça en fait toute la journée pendant 12 ou 14 heures par jour, et qui souvent en fait la nuit avaient toujours l'impression de coudre, mmh. même si mmh. elles... Et c'était ça qu'ils appelaient Phantom Thread. Et donc il y a... Je pense qu'il y a eu, il y a beaucoup de sens en fait à ce titre. C'est aussi cette idée que finalement la seule chose à laquelle il pense ce personnage de toute sa vie, c'est cette couture quoi. C'est cette. Mais je crois qu'il y a quelque chose en fait moi qui m'a vraiment frappé dans le film, c'est-à-dire que quand le film commence, quand on commence à me présenter ce personnage, à me présenter les relations qu'il va là avec les femmes, parce que avant de rencontrer l'héroïne du film. On le voit en fait avec sa dernière concubine, et on nous montre une scène de dispute au petit déjeuner, et en une scène en fait il explique très très bien en fait à quel point ce type c'est un ogre, c'est Barbe Bleue, tu vois, il y a quelque chose de très c'est à dire que on sent que cette femme est très mal et qu'elle cherche en fait à résister à cet ogre qui est en face d'elle. Et donc, elle cherche la bataille. Et en fait, plutôt que de se battre et d'essayer de la vaincre, il y a Daniel Day-Lewis qui lui dit « Bon, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie de me disputer, donc on va pas commencer de dispute. » Voilà. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que même chercher une dispute, c'est pas possible. C'est lui qui décide, en fait. C'est lui qui décide, même quand il doit y avoir une dispute, et elle ne répond rien. Et à partir de là, elle est évacuée du film, on la reverra plus. Et donc le j'ai l'impression de connaître ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu beaucoup de fois en fait. Et quand le film commence, j'ai vraiment l'impression de glisser dans des petits chaussons, de savoir où l'histoire va aller. Mais là où c'est intéressant, c'est que plus le film avance, et moins je sais où l'histoire va aller. C'est-à-dire que et c'est ce qui est intéressant, et on va en parler. On a beaucoup parlé de Daniel Day-Lewis dans le film, mais je crois qu'il va falloir aussi énormément parler de Vicky Krieps, mm-hmm. qui joue la femme qui est en face de lui, parce que tout le film en fait, c'est vraiment ouais, une histoire de duel entre les deux personnages. C'est-à-dire, c'est un ogre qui va essayer de faire rentrer cette femme en fait dans la liste de ses différentes concubines, et elle qui va pas arrêter de résister en fait tout au long du film. Et au-delà de cette résistance dans le scénario, en fait, il y a une résistance de jeu aussi. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une actrice qui puisse faire face à Daniel Day-Lewis. Et je pense que c'était pas facile.
Ouais.
Non. Et il y a, mais rappelons qu'il y a quand même deux comédiennes qui s'y collent, hein, pour ouais. faire face à lui, puisque il est en couple, on va dire, de travail et de vie avec sa sœur. Qui s'appelle Cyril, je pense que là aussi les choix de nom ne sont pas tout à fait innocents.
Mais qui l'appelle d'ailleurs My Old So-and-So, ma vieille machine, quoi, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
La vieille ceci, cela, en fait.
Oui, c'est-à-dire ouais. qu'il lui donne un espèce de sobriquet pour montrer sa supériorité, mais tout le film va s'appliquer à retourner ça et à montrer ouais. qu'effectivement c'est elle qui a le pouvoir sur lui. D'ailleurs, elle le dit à un moment donné.
Oui, n'essaie pas,
je vais t'écraser, en fait, en un jour où quoi, elle lui dit. De toute manière, en plus avec cet anglais impeccable, la langue anglaise sait être incisive de ce point de vue-là. Oui. Ça se passe à Londres. Et donc effectivement, on va nous faire toute une première moitié, un début qui est assez long, qui peut être un peu déroutant. Si moi, je suis assez cliente, j'aime beaucoup les débuts rituels. C'est-à-dire qu'on va s'appliquer pendant pas mal de temps à montrer tous les rituels de cet homme. Et de son entourage, puisque tout découle. Donc, il travaille dans une maison, on appelle ça une maison de couture, et en fait, c'est une vraie maison, c'est-à-dire qu'il vit au-dessus de l'atelier. Et donc, on va nous montrer, effectivement, sa vie, de son rituel du rasage, au fameux petit-déjeuner, et puis à son arrivée...
Le petit-déjeuner qui revient peut-être 10 fois dans le film.
Ce qui est extrêmement important, parce que la nourriture revient tout le temps, enfin, on pourra en reparler après. Mais... et donc, on va nous montrer tout ça, donc tout son rituel, c'est cette la cartographie précise de la vie de cet homme. Et effectivement, comme tu le disais, comme un espèce de cliché qu'on aime bien, c'est-à-dire du méchant, quoi, du... Parce que quasiment
de l'artiste qui contrôle en
fait. Le diable s'habille en Prada.
Voilà,
quoi,
l'artiste qui contrôle. Ouais.
Donc on est là-dedans et on se dit ah super, grand numéro d'acteur. On a vu Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada. On va avoir Daniel Day-Lewis dans le rôle du grand couturier. Ouais. Après Saint Laurent, il fallait bien que les Anglais s'y attaquent. Donc voilà, on frémit, mais rien de nouveau sous le soleil quand même. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. Et on se dit tiens, bon bah Paul Thomas Anderson qui est habitué quand même aux grandioses. Nous fait un petit film comme ça, il se fait plaisir, il y a du costume, ça va très très bien avec son esthétique, mais comme tu le disais, on est dans nos chaussons très confortables. Et là, il y a cette scène et l'apparition, mais qui est vraiment une apparition de cette comédienne.
Elle trébuche dans un restaurant.
Et il faut, en fait, je pense que j'ai, au moment de cette scène, quand Daniel Day-Lewis lève les yeux sur
Vicky
Krieps, je pense que j'ai la, et en fait à ce moment-là du film j'ai la même envie que lui.
Donc en fait c'est assez beau ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire c'est une serveuse dans un restaurant, elle trébuche, il la regarde et elle s'en va et elle rougit mais comme une tomate. Ouais. Et je pense qu'il y a des effets spéciaux même là pour montrer. C'est un moment important parce que juste après, une nouvelle scène de petit déjeuner, il commande son petit déjeuner et là, pour confirmer son statut d'ogre, on dirait qu'il commande tout ce qu'il y a dans la cuisine à peu près.
Mais c'est garantie, c'est
oui, d'ailleurs,
elle, ça, l'encourage.
Elle l'encourage. Elle est patiente, elle prend des notes et elle écoute son appétit vraiment. Mmh. Se dérouler, se déplier. Donc,
c'est un appétit pour elle aussi, parce que la manière dont il le regarde.
Là, c'est un peu sadien quand même. Bah, on peut, tu vois, c'est du.
Ouais.
C'est transparent.
Ouais. C'est assez transparent là-dessus, mais c'est drôle. Mais surtout, en fait, là, on n'essaye pas de nous la présenter de manière comme un personnage un peu gauche et malfagoté, parce qu'elle l'est, mais forcément, c'est l'uniforme et plutôt social en fait, qui la rend malfagotée, puisqu'on ouais. leur met des uniformes absolument horribles. Donc il y a pas ce d'habitude par exemple si on a beaucoup parlé de ce film parce qu'il est sorti en même temps aussi que Fifty Shades of Grey
oui.
qui est quand même deux histoires si on les prend
c'est la même histoire
et c'est vrai que la rencontre d'ailleurs se joue aussi sur la fille dans Fifty Shades elle trébuche également en fait
oui c'est en fait la maladresse extérieure du personnage féminin est censée être révélatrice en fait c'est un lieu commun de ce genre de personnage qui est censée être révélatrice d'une certaine fragilité ou en tout cas d'un certain plaisir à être à genoux devant son maître mais là où moi je me dis que dès la première scène on comprend qu'elle va pas juste se laisser marcher dessus. C'est le moment où elle prend en note les demandes.
Et elle en rajoute.
Et elle l'encourage à vouloir plus. C'est là qu'on se dit, tiens, peut-être que cette fille, en fait, elle va pas se laisser côté les fesses si facilement.
Et c'est ça, ce mélange est très vite, parce que très vite, il y a des scènes où, en fait, il essaie de prendre le contrôle sur elle. Mmh. Et il y a notamment une très très belle scène où, il s'en sert de mannequin vivant, grosso modo, et c'est ce qu'on devine qu'il fait de toutes ses conquêtes. Et il est en train de lui faire essayer une robe et elle est pas contente. Et elle lui dit mais pourquoi t'es pas contente ? Et elle dit je crois que j'aime pas ce tissu. Et là le frère et la sœur se liguent contre elle pour lui dire mais en fait t'as pas de goût. Ce tissu est très très bien et c'est ce que préfèrent nos clientes. Et ce tissu est beau. Et Daniel Day-Lewis lui dit même bah écoute si tu n'aimes pas cette robe peut-être qu'on arrivera à changer tes goûts. Et il y a elle qui arrête pas de répondre et qui dit mais moi peut-être que je les aime bien mes goûts à moi. Et il prend jamais le dessus sur elle. Et l'histoire de tout le film, et de la même manière, et ça je voulais en parler, c'est dans le jeu. C'est-à-dire de voir à quel point, où tu te dis s'il y a Daniel Day-Lewis dans la scène, c'est lui qui va dicter le rythme. Mais c'est pas le cas dans le film en fait. C'est-à-dire que souvent, tu vois même dans le jeu, Daniel Day-Lewis essaie de dicter le rythme et elle joue à contre-tempo en face. C'est-à-dire que par exemple, s'il veut une scène lente, elle va lui couper la parole. Et si lui veut répondre rapidement, ben elle va faire durer très 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 longtemps les scènes pour arriver à... et c'est ça que je trouve formidable, c'est cette manière. En fait, vraiment, cette actrice, elle joue face à Daniel Day-Lewis, qui est sans doute considéré comme le plus grand acteur de tous les temps. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais peur de lui, en fait.
En fait, à un moment de sa carrière, où Daniel Day-Lewis, où je pense qu'il a atteint un niveau, c'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser la tendance, peut-être qu'il avait un peu... très hollywoodienne de la performance, c'est-à-dire que maintenant même il a tout checké,
il a même dépassé Meryl Streep en fait.
Non mais bien sûr large, il a fait Lincoln, il a tout fait quoi. Et là il arrive, c'est censé être son dernier film, on en reparlera.
Ouais.
Jusqu'à ce que Paul Thomas Anderson lui en propose
ou
un autre.
Spielberg ou ce qu'on veut, mais voilà, il va réapparaître, c'est pas trop de soucis. Mais quand même il a un niveau où voilà, on est au top.
Il y a tout, mais à la fois, et c'est ça que j'aime bien, parce que pour que ça puisse marcher, il faut que lui le laisse faire aussi. C'est-à-dire, il est très généreux dans sa performance. Il laisse exister ces deux autres stars qui sont avec lui, quoi. Leslie Manville et Vicky Krieps, quoi. C'est pas que autour de lui, ce film. Et vraiment pas.
Non, non, et parce que je pense qu'aussi ça vient du regard, et de toute façon c'est un film, quoi, on parle de la couture, je pense qu'il y a quand même beaucoup de liens avec le cinéma quand même par ailleurs, il faut...
Oui, d'ailleurs on peut en parler, mais les nombreuses, c'est-à-dire que Daniel Day-Lewis c'est un homme qui aime regarder mais qui aime pas toucher, il y a très peu de sensualité en fait dans le film, il la touche très très peu, sauf à des moments bien particuliers dans le film.
Je suis pas complètement d'accord, parce que on imagine qu'il la touche peu, parce que... on les voit rarement dans des scènes d'intimité.
On les voit
en
pas.
Fait, souvent, les moments du film où on pourrait imaginer qu'ils vont faire l'amour, les portes se referment. Les moments du film où on pourrait imaginer que le baiser continue pour aller plus loin,
finalement, c'est coupé.
Et je crois que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas sensuel. Ça veut juste dire, je crois...
Enfin, oui, mais en tout
je
cas,
pense
il choisit,
que ça veut
choisit,
dire que
choisit,
ce qui choisit, se passe se passe d'abord à l'intérieur.
Il
c'est un peu
l'anti
Fifty Shades of Grey où tout se passe à l'extérieur, mais qui t'aime
pas. Il choisit de pas le montrer, mais ce qu'il choisit de montrer en regard, c'est le regard qu'il pose sur ces femmes. Et à plusieurs reprises, en fait, par exemple, à un moment donné, il y a un défilé de mode, il y a elle qui est mannequin lors de ce défilé, et il n'arrête pas de la regarder à travers un Judas qu'il a mis dans le mur pour regarder.
Dont elle a conscience.
Dont elle a conscience, et elle joue. Et quand elle sait qu'elle le regarde, elle est d'autant plus joueuse.
Au départ, il la regarde pas. Et elle va justement faire exactement ce qu'il faut, parce qu'elle a conscience que derrière il va quand même la regarder via l'œil. Il y a tout un jeu entre eux, mais qui fonctionne avec ces deux comédiens. Et c'est vrai que c'est un film pas tellement c'est très Hitchcockien, hein, puis ça a été beaucoup dit, mais là-dessus quand même c'est parce que effectivement il n'y a pas de scène entre, il n'y a pas de scène d'amour, il n'y a pas de scène charnelle, mais tout est sensuel. Tout est quoi, tout,
oui, carrément, extrêmement. Tout est ultra sensuel.
Il y a quand même une chimie, quoi, c'est électrique entre eux. Ouais,
c'est vraiment très très charnel.
Cette alchimie entre deux personnages physiques aussi présente. Ça passe par la nourriture, parce qu'il y a quand même. Donc tout le dialogue, je pense, charnel, passe par le goût ou le dégoût de Daniel Day-Lewis au petit déjeuner. On sait très bien, est-ce qu'il a envie de coucher avec elle ou pas? C'est selon comment Albert sait un biscotte. Quoi, selon lui, sa capacité à.
Parce que c'est les moments, c'est autant, en fait, il y a eu cette première scène de déjeuner où il la rencontre, où il commande plein, où on sent un appétit sexuel ahurissant. Et il y a beaucoup de scènes aussi où on le sent énervé par les bruits du quotidien, en fait, c'est-à-dire elle qui beurre sa biscotte et lui qui supporte plus ça. Et le son qui est bien mis en avant.
Et qui veut pas manger. C'est quelqu'un qui a un rapport extrêmement délicat à la nourriture. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire tout est trop gras, je vais pas manger ça, alors qu'il a des pâtisseries. Quoi. Moi, quand même, les pâtisseries dans ce film sont extrêmement appétissantes. Tout est appétissant. Et donc il y a tout un jeu comme ça, un dialogue qui se crée sur la nourriture entre eux. Et c'est assez intelligemment fait par le réalisateur, parce qu'il va pas insister là-dessus. Il va vraiment. C'est un film qui s'épanouit, vraiment. On a l'impression on nous pose des choses, mais on va. C'est à nous aussi d'aller faire le lien, de tisser, de vraiment rapporter, de remettre les pièces en place. Il ne nous force pas le regard, mais pourtant tout est là. Et c'est vrai que sur la nourriture, on pourrait en faire des caisses, en fait, là-dessus. Hein. C'est assez facile de montrer ça. Et pourtant,
un cliché presque au cinéma.
Non, il en fait quelque chose quasiment d'une... J'étais assez étonnée. Il y a beaucoup d'humour autour de ça.
Énormément, oui.
Énormément d'humour. Il y a une autodérision permanente entre sur les personnages et même les personnages entre eux. Et j'ai l'impression que, même on parlait du jeu, que ce qui fait que les acteurs aussi l'ont intégré. Et j'ai l'impression que parfois, Daniel Day-Lewis se moque un peu de il a l'opportunité avec ce rôle-là de se moquer de sa méthode. On parle, Daniel Day-Lewis, quand on parle de cet acteur, on parle forcément de sa méthode. C'est quelqu'un qui ne sort jamais de son personnage. Il n'y a pas de coupé. C'est-à-dire que début de fin de tournage, il va être Mr. Woodcock. Quoi. Donc c'est génial, t'as plus qu'à dire action, il est là. Et je pense que dans ce film-là, il y a même cette autodérision-là sur sa méthode à lui, en fait.
Mais oui.
Il est constamment, comme tu le disais, Arnaud, décontenancé par cette comédienne qui arrive et qui va pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Et je pense qu'il y a des moments, il y a des vrais sourires, et je me demande à quel point ça lui échappe ou pas. Mais. C'est assez drôle, en fait. Il y a un vrai plaisir à regarder.
C'est là où c'est intéressant. Il faut savoir, en fait, que Paul Thomas Anderson en parlait, de comment il a travaillé sur ce film avec Daniel Day-Lewis. Et en fait, il était arrivé avec trois lignes, où il n'y avait même pas d'histoire de couturier jusque-là. Il disait juste cette histoire d'amour-là. Et il l'a écrit avec Daniel Day-Lewis, en fait. Il est allé en Angleterre pour l'écrire avec lui.
Justement, c'est ce que j'allais dire. Daniel Day-Lewis, en tant qu'acteur, c'est aussi un acteur qui est autant apprécié parce que c'est aussi un auteur. Quand il arrive sur un film, il écrit son rôle en le jouant. Et pour moi, le mythe de Pygmalion, qui est vachement transparent, en fait, il est repris dans le film de manière ultra transparente, parce que ben voilà, t'as un mec qui arrive et qui fait de cette jeune femme quelque chose d'autre. Pygmalion, il fait de la statue, c'est lui qui en la sculptant tombe amoureux d'elle. Et sauf que là, contre toute attente, normalement la statue devrait rester de marbre. Normalement, l'actrice, qui est d'ailleurs pas une actrice très célèbre, l'actrice devrait se contenter de juste donner la réplique à Daniel Day-Lewis. Et ben non, en fait, elle prend vie littéralement et elle se rebiffe en fait. Elle répond, elle joue et même elle lui tient la dragée haute. Je trouve qu'elle joue tout aussi bien que lui en fait.
Ah non, mais vraiment, c'est
ce qui est assez. Mais... je pense, ce qui doit un peu déstabiliser Daniel Day-Lewis, c'est qu'il doit le pousser dans ses retranchements.
Et c'est ça qui est étonnant en fait. Je pense que c'est un film qui fait répond, j'ai l'impression, à deux autres films de Paul Thomas Anderson. Je pense à The Master, évidemment, qui était une histoire de domination aussi, mais qui se passait pas comme prévu non plus. Et ce qui est marrant, c'est que The Master, c'était quasiment l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, on avait 20 minutes sur le personnage de Joaquin Phoenix qui faisait n'importe quoi. Et où on avait l'impression, en fait, que jamais on allait comprendre comment ce personnage allait marcher. Il est très chaotique, c'est-à-dire que tout d'un coup, il est photographe dans un grand magasin new-yorkais et il attaque un client, mais on sait pas pourquoi. Et ensuite, la scène d'après, il distille de l'alcool à partir d'huile de moteur, tu vois. Il fait des choses comme ça, et il fait les unes après les autres, et on se dit, on va jamais le comprendre. Et quand arrive la fin du film, on arrive à anticiper ce qu'il va faire. C'est-à-dire, le moment où il va quitter Philip Seymour Hoffman, on le sait avant qu'il le quitte. Mmh. Et on a fini par le comprendre. Et ici, on a l'inverse. On a un personnage qui est complètement dans ces petits trucs quotidiens qui vont se répéter indéfiniment, où sa sœur n'arrête pas de lui répéter « c'est jeudi, tu pars à la campagne », tu vois, où on imagine vraiment sa semaine qui est toujours qui fonctionne de cette même manière-là. On projette beaucoup de choses, et au bout d'un moment, ben non, ça ne va pas se passer comme prévu. Le deuxième film auquel ça s'oppose, j'ai l'impression, c'est « There Will Be Blood », aussi avec Daniel Day-Lewis. Parce que There Will Be Blood avait quelque chose d'un peu particulier, dans le sens où il n'y a aucune femme qui ne parlait dans ce film. Il n'y a pas un seul mot prononcé par une femme, et même plus que ça, c'est-à-dire que tous les mots qui sont prononcés, c'est des mots pour dominer dans There Will Be Blood. Et il y a un mot d'amour qui est dit dans ce film, à la fin il y a son fils qui lui dit qu'il l'aime, mais il le lui dit en langage des signes. Parce que en fait, la parole, elle est utilisée uniquement comme une arme offensive dans ce film-là. Et dans un milieu extrêmement masculin où c'est les hommes qui possèdent. Et ici, on a un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que Daniel Day-Lewis, quasiment le seul homme du film, qui est entouré en permanence en fait de femmes. Il y a que des femmes dans cette maison. C'est des couturières. Il y a une dizaine de couturières. Il y a sa sœur. Il y a cette femme qui arrive.
Il y a des clientes.
Et il y a les clientes, et ce qui est marrant, c'est que dans ce sens-là, d'abord, il le montre un peu comme le petit roi de ce domaine-là, lui qui possède ça, mais c'est marrant de voir, en fait, comment, en fait, finalement, ses paroles finissent par ne plus les atteindre, elles, et comment elles arrivent, en fait, à retourner ce rapport de force qui existe. Et, enfin, voilà, ça, je trouve que ça prolonge bien...
Contrairement à toi, j'ai jamais pensé, et je trouvais qu'il y a toujours un truc assez malin chez Paul Thomas Anderson, c'est qu'il a tendance à nous montrer, et on pense voir des hommes extrêmement dominants, parce qu'ils le sont...
extérieurement
ouais. Mais il arrive toujours assez cruellement à montrer à quel point ces hommes sont d'une fragilité, d'une faiblesse. Ils nous montrent pas des hommes qui écrasent, c'est des hommes qui finissent toujours écrasés quand même.
Mais comme tu dis, ils les montrent quand même d'abord dans une position de pouvoir pour ensuite les...
Mais là j'ai l'impression que ici quand même il y a un aboutissement sur ce geste là en tout cas.
Vite on le voit qui pleure après sa maman finalement, dès la première séquence du film, il y a le fantôme de la mère qui est convoqué à travers les paroles par Daniel Day-Lewis. C'est entre sa sœur et lui, c'est quelque chose que eux partagent et qui exclut tous les autres en fait. Et au début, tu te dis le seul couple qui marche, c'est Daniel et sa sœur, parce que c'est les seuls à comprendre et à avoir eu la mère en commun. Et donc, enfin, en tout cas, moi, au début, quand j'ai vu le film, la première piste que j'ai eue, c'est « Ok, cette fille, Alma, elle va pas durer longtemps. De toute façon, le seul couple qui fonctionne, c'est Cyril et son frère, joué par Daniel Day-Lewis. Mais en fait, bah, finalement, le film t'emmène ailleurs et tu te rends compte que, oui, le fantôme de la mère est là, mais que, finalement, Alma, elle va même se réapproprier le fantôme de la mère. Oui, et c'est pour ça que, peut-être, elle fait partie de cette famille que... étrange qui forme avec sa sœur.
Et alors c'est là en fait où on voit que les choses, il y a comme un petit court métrage en fait au milieu du film qui raconte une histoire qui est une des clientes de Daniel Day-Lewis, Barbara Rose.
Ouais, oh là là, la chiale.
Et qui vient pour commander une robe pour son deux ou troisième mariage, je ne me rappelle plus.
Je crois sans doute beaucoup plus que ça.
Et il y a quelque chose autour de cette robe, et là, l'actrice aussi qui l'a choisie est...
Elle est sublime.
Incroyable. C'est-à-dire que dans le texte tel qu'il est écrit, il n'y a pas grand-chose, mais la manière dont il le joue... En fait, dès qu'elle arrive, on sent qu'elle a pris des médicaments, quoi.
Mais alors, je suis pas sûr que là, comme ça, vu de l'extérieur, tes auditeurs puissent comprendre. Je pense qu'en fait, il faut juste rappeler ce que vient faire cette femme. Cette femme est une femme extrêmement riche, une cliente, dont on entend d'abord parler avant de la rencontrer.
C'est pas une cliente. C'est elle qui possède la marque, qui possède la maison.
Oui,
c'est
en fait,
c'est
elle.
C'est la principale investisseur de la marque.
Donc, ouais.
c'est pas juste une cliente, c'est-à-dire que c'est...
La cliente, c'est elle qui fait tourner la maison.
Elle qui fait tourner la maison, c'est l'investisseur, en fait.
Et donc, ouais, elle est extrêmement riche et elle compte, on entend d'abord parler d'elle à travers le mépris qu'elle inspire aux gens, et ensuite, elle intervient. Et c'est vrai que quand elle intervient, D'ailleurs, je ne sais pas quel est le nom de cette actrice.
Je ne sais pas non plus,
mais
elle est formidable.
Vraiment formidable. Quand elle intervient et qu'on la voit jouer comme ça, on se dit... Ah ouais. Enfin, moi, j'étais assez émue par elle. Et du coup, je t'ai coupé. Excuse-moi, tu racontais.
Non, mais voilà, elle doit avoir, je ne sais pas, 45-50 ans, quelque chose comme ça. Pas très jolie. Et
bah,
je
pense que le point le plus important, mais, c'est qu'elle est grosse.
Elle est grosse.
En fait, et c'est extrêmement important, je pense, dans le film, pas tellement... c'est parce que c'est la première fois qu'on voit une femme de son poids demander
une robe. De...
Ouais. Et je pense que et on la présente d'ailleurs comme une femme qui a de l'argent et qui a un pouvoir sur Daniel Day-Lewis, quand je vois sur son personnage Mr. Woodcock, et donc je pense que lui c'est une cliente que normalement il refuserait. Elle est pas dans ses canons,
ferait pas honneur à ses robes, quoi.
Voilà,
c'est assez violent à dire,
c'est assez violent, et on le ressent. Et c'est vrai qu'il y a tout ce, alors qu'on l'a vu habillée quand même que des femmes de différents âges, mais quand même taille mannequin quand même, globalement, là c'est comme s'il y avait toute la difformité, quoi. Vraiment, le problème c'est que cette femme qui est pas forcément plus moche qu'une autre, donc on la voit avec le regard. Moi, je trouve ça impressionnant. Je trouve que le réalisateur arrive toujours à nous faire comprendre du point de vue de Woodcock. On porte le même regard que lui sur elle, et c'est affreux. C'est pas une comédienne que j'ai envie de trouver laide, loin de là.
Mais quand
elle arrive, je trouve que c'est l'incarnation de la laideur et de la vulgarité.
Et
en
pour
fait.
Le coup, on retrouve le monstre qui manquait à la forme de l'eau, peut-être.
Exactement.
Et donc, elle va épouser un playboy dominicain. Et durant la séquence du mariage où Daniel Day-Lewis et Vicky Cripps sont là, on la voit petit à petit se désagréger, en fait, face à ça. Elle s'écroule même littéralement.
Dans l'ignorance
elle tombe dans...
totale.
Ouais, ouais, ouais. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que de la part des deux héros, il n'y a aucune compassion. Et c'est Vicky Cripps elle-même qui a l'idée de lui dire, mais en fait, elle n'a pas le droit de se comporter comme ça dans une de nos robes, on va la récupérer.
Dans une de tes robes, hein, pas ouais, dans,
droit, oui, t'as raison, une de tes robes.
Dans une robe bout de coque, t'as pas le droit.
Le monstre n'était pas digne de porter la robe.
Et donc ils vont littéralement aller lui enlever la robe alors qu'elle est effondrée en fait sur son lit.
Elle est inconsciente, effondrée sur son lit au fin fond, quoi. Je veux dire, elle s'est humiliée publiquement, c'est-à-dire qu'elle a été évacuée de son propre mariage dans l'ignorance, quoi. Personne ne l'a semblé la remarquer, mais elle a été portée forcément par. On insiste sur le fait qu'il faille à peu près 5 hommes pour la porter, quoi. On rappelle sans cesse ce poids, cette
déchéance, ouais.
Et puis il a fait une robe quand même qui met pas du tout en valeur son corps, quand on rappelle toute la masse,
c'est une
toute
robe
la lourdeur,
qui cache tout le temps,
toute la lourdeur de l'argent. Je pense qu'aussi il y a le dégoût de l'argent aussi qui est derrière. Elle incarne cet argent qu'il ne veut pas voir, parce que aussi c'est un couturier qui est en train d'être rattrapé par d'autres, par la modernité en fait, hein. Et donc je pense que il est très dépendant de cette femme là et donc et d'un coup il s'acharne sur elle, sur ce corps mort, pour lui enlever cette robe qu'elle a payée. Et en fait, c'est une humiliation, mais qui est totale sur elle. C'est horrible à quel point ils se déchaînent.
En fait, c'est ce qui va
les lier tous les deux, parce qu'à partir de là, on voit leur premier baiser passionnel, en fait.
Et surtout, elle passe enfin la nuit avec lui.
Ouais.
Et
il y a une porte qui se ferme sur leur chambre, et là, on comprend que peut-être ils font enfin l'amour. Enfin,
ouais,
on imagine que c'est leur première nuit, ouais.
Ouais.
Mais moi, je tiens juste à redire que c'est pas Daniel Day-Lewis et Alma, j'oublie tout le temps le nom de l'actrice, Vicky Cripps, Crisp ou Crips ?
Crips.
Peu importe. C'est pas les deux ensemble qui enlèvent la robe de cette très riche dame, c'est seulement Alma. C'est son émissaire, en fait. Elle lui sert tout d'un coup de
ah non, mais, on a,
non,
on
mais
a
pas que ça, elle est motrice, elle, est motrice elle veut le faire
elle
en fait.
Veut le faire, c'est vraiment...
Elle
c'est
veut que... le faire,
non, mais on a une vraie relation de sadomasochiste. Quoi, c'est vraiment,
ouais.
C'est, elle répond, elle montre à son maître.
Oui, elle est heureuse d'être un outil pour son
et
maître.
Et elle est heureuse de là se transformer comme effectivement un outil. Regarde comme je te suis fidèle, regarde comme je te respecte, et jusqu'où je suis prête. Je suis capable d'aller très loin pour toi, en fait. Ouais.
Et donc, c'est là où c'est beau, c'est parce que c'est le premier pas, en fait, vers ce qui va se passer ensuite. Donc, bon, maintenant, on va dire ce qui se passe ensuite. C'est que, petit à petit, en fait, Alma va se mettre à empoisonner à intervalles réguliers Daniel Day-Lewis pour le rendre malade et dépendant d'elle, pour qu'elle s'occupe de lui comme une mère, en fait, s'occuperait d'un enfant, pour ensuite le remettre sur pied. Et en fait, c'est une relation que les deux adorent. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire ça devient un jeu sexuel, en fait, cette manière comme ça d'inverser les rôles. Et là, on parlait de Fifty Shades of Grey. Là où c'est plus malin que Fifty Shades of Grey, c'est Fifty Shades of Grey, c'était l'histoire d'un mec qui est dominant dans sa vie sexuelle et qui domine tout le temps. Et ici, en fait, et il raconte ça dans beaucoup de ses films, Daniel Day-Lewis, c'est en fait, quand il y a une situation de dominant-dominé, elle est jamais aussi simple que ça. Et qu'on peut passer de l'un à l'autre, retourner...
Exactement. C'est-à-dire que, comme elle... lui a montré sa fidélité et son appartenance, quoi. Quand, au moment où elle va récupérer cette robe, alors que cette femme a énormément de pouvoir, ce qu'elle fait, c'est extrêmement cruel. Lui aussi va lui montrer à quel point il est capable de se laisser aller, et il flirte avec la mort, hein, parce qu'elle va très loin.
Il est presque ok pour mourir,
C'est vraiment, on est à deux doigts, quoi. C'est elle qui maîtrise, mais il est vraiment pas loin de mourir à chaque fois. Alors, ça va très très loin. Il passe quand même ses nuits à vomir, quoi. Il passe toute une période à vomir, et quoi, entre autres choses, hein. À se vider littéralement. Et donc il lui montre aussi à quel point il lui est fidèle.
Et la manière où. Parce qu'au début, elle le lui cache, c'est-à-dire elle l'empoisonne et elle le lui cache, mais c'est les moments où il retombe amoureux d'elle, en fait. Et ensuite, au bout d'un moment, elle le lui avoue et il y a une scène géniale d'omelette aux champignons vénéneux. Où elle lui prépare une omelette, c'est très très long, les deux se regardent, et la manière dont il la mange, en fait, on sent qu'il a énormément de mépris pour elle, où il fait exprès de... Et donc, il mange cette omelette, et pendant qu'il la mange, en fait, il y a elle qui lui révèle et qui lui dit, grosso modo, c'est des champignons empoisonnés, elle lui dit, j'ai envie que tu sois très mal, que tu dépendes de moi, et après que tu sois fort à nouveau. Et là, il comprend ce qui se passe, et là, il y a un très très long moment sur Daniel Day-Lewis, où là, dans le cinéma, je savais pas du tout comment il allait réagir à ça, où on n'arrive pas à lire, en fait, ce qu'il ressent, et tout d'un coup, il se met à avaler, en fait, le bout d'omelette qu'il
mais
a,
avec une envie
ahurissante,
et
là, on sent presque une bouffée de chaleur chez Daniel Day-Lewis, et il dit à Vicky Krieps, embrasse-moi avant que je sois malade.
Non, mais c'est hallucinant, parce que...
C'est beaucoup plus sexuel que...
Il y a beaucoup plus de... c'est pas, voilà, on ne réduit pas la relation dominant à une fessée dans une chambre rouge, en fait. C'est complètement ridicule.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à faire passer ça sans jamais montrer une image scabreuse. Ouais, c'est ça qui est fou dans le film.
Non, mais c'est
en fait.
Hitchcock, hein, Hitchcock qui était quand même un pervers absolu, quoi, qui avait quand même un regard un peu pervers sur les femmes, surtout, en tout cas, mais qui adorait à mettre ça. Et c'est vrai qu'on ne peut, quoi, dans cette Angleterre-là, cette période-là, il y a quand même le fantôme d'Hitchcock qui est à peu près partout, en fait. Mais. Avec cette pointe d'humour, toujours. Quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il s'attaque à ce genre de la comédie romantique et il refuse pas aussi le plaisir comédie qu'il y a dans la comédie romantique. C'est-à-dire qu'il va pas forcément aller dans le mélodrame, il va vraiment assumer ça, c'est-à-dire ce happy end étrange. Dame à Happy End, où tout est résolu, où on la voit, elle, après avoir un enfant, créer donc une vraie famille avec la sœur. Où déjà c'est merveilleux parce que ces deux femmes où on était prête à faire comme d'habitude un scénario où deux femmes s'opposent pour un homme, au final pas du tout absolument pas, elle s'allie de manière absolument remarquable avec
l'intelligence. Parce qu'elle la reconnaît, elle s'est rendue digne en fait, j'ai l'impression que Alma s'est rendue digne de rejoindre cette famille en fait. Il y a eu un moment
il y a des passes d'armes, mais en même temps il y a une reconnaissance aussi dans l'intelligence de l'une et de l'autre, et elles sont pas dupes surtout de l'homme qu'elles fréquentent, ni l'une ni l'autre, et elles sont pas dépendantes de lui, c'est lui qui est dépendant d'elle. C'est beaucoup plus subtil que ça, et je trouve ça formidable de réussir cette espèce de tour de force force. Et ça faisait longtemps, je pense, que j'avais pas vu une comédie romantique qui renouvelait à tel point ces codes du genre qui sont servés avec cette intelligence-là. Et on est extrêmement surpris à la fin d'être heureux comme une bonne vieille comédie romantique hollywoodienne, vraiment. Vraiment, comme ça, au moment où il y a cette musique à la fin des comédies romantiques. Où ça se
avec le
bien,
baiser dans l'aéroport.
Exactement. Et là, sur quand même Daniel Day-Lewis qui se vide dans sa salle de bain, quoi. Enfin, vraiment. Et on est là, genre, ah, c'est beau l'amour.
D'ailleurs, on peut en parler parce que c'est vrai que ça joue beaucoup de la sublime musique composée par Johnny Greenwood Halfin, qui est quasiment omniprésente. À part à certains moments où vraiment, par exemple, les moments où il veut qu'on entende les sons du petit déjeuner, là, il coupe la musique pour qu'on n'entende que ça. D'ailleurs, c'est pas tant une manière de booster les sons, en fait, que d'isoler les sons qu'il utilise pour pouvoir nous les faire entendre. Mais en fait, la relation qu'il a avec Johnny Greenwood, donc, qui est son compositeur depuis There Will Be Blood, là, je trouve qu'ils atteignent vraiment une perfection comme j'en ai rarement vu. Pour moi, je le mettrais quasiment à l'égal de Sergio Leone et Ennio Morricone, quoi. Il y a quelque chose de... Et... C'est très marrant parce que j'ai l'impression que la plupart des gens sur cette histoire, ils auraient fait une musique sans doute un peu sombre, tu sais, peut-être un peu gothique pour essayer d'accentuer comme ça la noirceur de l'histoire et des personnages, ce qui aurait été très très redondant. Et là, comme tu le dis, on a quasiment une musique de comédie romantique. C'est une romance en tout cas. Il y a quelque chose, même les inspirations qu'il prend, c'est des inspirations qu'on n'entend pas beaucoup au cinéma. J'ai l'impression d'entendre presque du Debussy. Tu vois,
tu veux que je te dise, la dernière fois que quelque chose d'inspiration Debussy a été utilisé dans une comédie romantique, c'était Twilight. Dans Twilight, c'était Debussy d'ailleurs, et c'était il y avait ce côté un peu romantique, ce goût des larmes, ce bonheur extrêmement léger en fait que t'as dans les
cette idée aussi d'un amour très impossible, en tout cas qui est
absolu, complètement absolu,
et c'est ça qui est aussi beau. Bah, après ça c'est un des ressorts de la comédie romantique, c'est deux personnes qui ne sont pas du même milieu, c'est Cendrillon, hein, et donc tout oppose, et finalement que l'amour va réunir, etc. Mais quel plaisir aussi de voir un film qui arrive à la fois à nous parler d'une société londonienne extrêmement... Quoi, l'Angleterre est très très hiérarchique, hein, quand même. Autant en France, on aime les règles parce qu'on aime surtout ne pas les respecter, mais eux, au contraire, c'est quelque chose qui... Le respect des règles, et il y a un plaisir aussi, je pense que... C'est pour ça aussi que le fait d'incarner ça à Londres, c'est important, puisqu'il y a un amour de la règle, il y a un plaisir dans la contrainte. Vous voyez, c'est quand même des gens qui vivent sous la pluie et qui aiment ça toute l'année. Il y a quand même ce truc anglais de prendre plaisir.
D'ailleurs, l'Angleterre, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein, si ça. Tu supportes pas la pluie, tu vas vivre ailleurs.
Donc il y a quand même cette idée que se te faire un peu torturer au quotidien,
ça fait partie de ta
cette ville qui est quand même rien de plaisant, jamais, tu vois, entre mais qu'on aime profondément, ils arrivent à la rendre belle, hein, mais voilà. Et je sais plus où je voulais en venir sur la hiérarchie et sur le plaisir qu'on avait à ça, je sais plus.
Sur le côté un peu romantique, Arnaud
effectivement. Ça pourrait être un film un peu social, c'est-à-dire que il y a un moment un personnage qui est le docteur qui vient faire une réelle compétition à Daniel Day-Lewis en termes... disons que c'est pas une fille qui n'a pas le choix. C'est important de faire comprendre aussi que c'est pas lui qui l'a sauvée, il l'a pas sauvée du caniveau.
Non, en fait, elle a le charme qui opère sur tout le monde.
Voilà, et donc il y a ce personnage, un jeune docteur extrêmement brillant, comme la bonne société anglaise sait les fabriquer.
Team Jacob, donc.
La Team Jacob, exactement. Et ça, c'est le Kennedy local, quoi. Ouais. Il a tout, c'est vraiment ça, en fait. Mm-hmm. Et bien sûr, il est en un clin d'œil, comme Daniel Day-Lewis l'a été, il est subjugué par Alma, parce qu'elle c'est comme ça qu'on tombe à mon modèle.
Ouais.
Et ça a été important d'avoir ce personnage-là, et on pourrait se croire que, elle est objectivement maltraitée, en tout cas, rabouée régulièrement par Mr. Woodcock. Donc voilà, on se dit, elle va se tirer, et puis. Elle appartient pas à ce monde et elle va enfin partir vers ses semblables. Et en fait, le film arrive très subtilement avec des scènes, finalement, dans les peu de scènes où on sort de la maison, de cette maison de couture, finalement, on les compte sur le doigt de la main, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il arrive à évacuer cette piste, mais de manière extrêmement intelligente. C'est-à-dire qu'il nous montre qu'au final, c'est toujours dans le regard, en fait, cette bonne société anglaise. qui la rejette elle et qui parce qu'il y a cette femme comme ça qui se moque de
oui
qui se moque d'elle parce qu'elle vient pas de leur... finalement lui ne va jamais se laisser atteindre par ce regard là, c'est-à-dire que ce qui va compter pour lui c'est son emprise, comment lui la regarde et comment elle le regarde. Et c'est en fait ce qui nous montre très bien, c'est que c'est pas tellement la société qui peut les séparer, c'est plutôt elle. Et c'est là où elle a le pouvoir, c'est d'être regardée par quelqu'un d'autre et de poser ou pas son regard sur lui. Et il y a tout ce moment-là du film est très beau, très, très fin. Et ça arrive à une scène, moi, que j'adore, de Nouvel An, où elle va rejoindre le docteur dans une fête de Nouvel An, qui est absolument superbe. La scène est...
Et là, à nouveau aussi, là, il fait clairement référence à lui et au cinéma. C'est-à-dire que quand Daniel Day-Lewis arrive dans cette fête de Nouvel An, il est à l'étage, au balcon, il passe derrière des sièges de cinéma et il regarde, et il regarde en fait la fête comme si elle était sur un écran de cinéma. C'est encadré par quelque chose.
C'est une fête spectaculaire, il faut insister là-dessus, sur le spectacle, absolument. Quoi, il y a ce...
Mais que ce spectacle est toujours en arrière-plan. Oui. En fait, c'est ça qui est beau, c'est lui qui le regarde. On n'est pas dans le spectacle, on n'est jamais dans le spectacle, on est toujours dans le point de vue du spectateur en fait.
Exactement. Et il va la chercher, moi je pense que c'est une scène où d'un coup, cet homme, ce physique qu'on a mis en place, extrêmement sec, maîtrisé, perd ses nerfs. Mais sur un geste, mais d'une précision, c'est une image, en fait. Et on comprend qu'il est... que cette relation-là, d'un coup, elle est équilibrée.
Ouais, parce qu'en fait, le geste dont tu parles, à ce moment-là, c'est Daniel Day-Lewis, si je ne me trompe pas, qui rattrape Alma et qui la prend par la main. En fait, il avec sa main, il la retient par le poignet, en fait.
Pas tellement, c'est plutôt quand elle est acculée sur le mur et lui il va s'avancer, il va avoir ce geste de la tête, très italien d'ailleurs comme geste, genre on avance comme ça, qu'est-ce que tu...
Il dit rien, il lève le menton.
Et vraiment, il lève le menton, il lève le regard sur elle, tu vois, il l'accroche, il met regarde-moi, il y a vraiment un truc de... Mais tu vas me regarder, donc tu vois, il y a un truc, je suis venue te chercher, je te vois, je t'ai trouvé dans la foule, parce que c'est vraiment où est Charlie, hein, le moment où il arrive, il faut la trouver parmi tous ces gens.
Et ça le rend fou, parce qu'il lui a dit, lui il voulait pas aller à cette fête, il lui a dit, ben vas-y tout seul, et elle y va tout seul, et après il y a un long moment chez lui où on sent en fait, il peut plus bosser, il peut plus rien faire, en fait, il pense qu'à elle, quoi.
Cette scène où il va la chercher dans une fête et où il se contente entre guillemets de l'attraper par le poignet et de lever d'un geste de la tête le menton, ça pourrait être une scène dans une autre comédie romantique développée dans une scène d'aéroport ou dans une scène
la tentation ici c'est d'en faire une scène de dialogue extrêmement longue et d'engueulade, il y en a pas.
Bah oui, mais parce que tout ce film est condensé en fait.
Mais il y a pas.
Et c'est justement après il le dit et c'est une autre scène aussi surprenante, c'est un moment où il parle à sa sœur en disant j'ai fait une grande erreur dans ma vie, sous-entendu d'avoir épousé Alma, et où il dit depuis qu'elle est là tout a changé, j'arrive plus à bosser, je sais plus rien faire, je voilà. Et pendant qu'il dit ça en fait il le sait pas, mais Alma est derrière. Et là pareil, on s'attend toujours pareil, on s'attend à ce qu'il y ait un éclat, et donc elle fait savoir sa présence, et plutôt que de se sentir mal, il lui dit d'aller se faire foutre grosso modo en fait. Et le film il fonctionne beaucoup comme ça, mais ce qui est beau dans cette manière en fait précise de toujours nous montrer en fait ce qu'il y a, c'est... En fait, ce qu'il y a de particulièrement beau dans la mise en scène de Paul Thomas Anderson, c'est cette manière de toujours faire ressortir l'information importante, en fait, dans chaque scène. Que ce soit, justement, je reprends cette histoire de Barbara Rose, par exemple. Pendant qu'elle est en train de parler au journaliste de son nouveau mariage, en fait, ce qui est important, c'est le regard d'Alma et de lui. Donc, en fait, ça va être des plans plutôt sur eux, que sur Barbara Rose. Il va toujours mettre en fait en avant ce qu'il veut qu'on y voit à l'intérieur, que ce soit avec les sons de la biscotte, que quand il veut qu'on l'entende il éteint tout ce qu'il y a autour, etc, etc, que ce soit à tous ces niveaux là et pour réussir ça en fait il faut un sens du rythme ahurissant. Et je voulais un petit peu parler de son monteur Dylan Tichenor, qui est un des meilleurs monteurs à Hollywood, et je crois que j'ai trouvé sa petite technique de filou qui fait qu'il arrive toujours à monter des superbes chants contre chants, parce que le chant contre chant généralement au cinéma c'est une figure qui a un peu mauvaise presse, on va dire. On dit souvent que c'est la figure feignante, tu sais, pour pouvoir filmer quelque chose, alors qu'un beau chant contre chant ça peut être quelque chose de formidable. Et je pense que Dylan Tichenor monte les meilleurs chants contre chants en fait de tout le monde. Et il a cette manière en fait de tout le temps, j'ai l'impression, rallonger ce qui a été tourné. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la caméra s'attarde toujours un petit peu plus sur les visages de quelqu'un qui vient de parler, alors que sûrement, en fait, sur scène, l'autre acteur a déjà commencé à parler, mais lui, comme ça, dilate le temps de ces scènes-là pour essayer justement de nous faire mieux rentrer dans les impressions des personnages plutôt que dans le dialogue lui-même.
On a toujours l'impression qu'à un moment, ces personnages-là, on a accès à ce qui leur échappe. Et c'est ce qui me plaît dans un film, c'est avoir cet accès-là. C'est-à-dire qu'on nous montre ça, je disais ça tout à l'heure par rapport à Call Me By Your Name, c'est vraiment parce que j'ai pas accès à ça, justement, dans ce film-là. Alors que Call Me By Your Name, il y avait le même terreau pour le faire. Et il le fait pas. Et il arrête trop tôt. Et là, dans ce film-là, on a accès à tout ça, et c'est formidable. Enfin, il y a un lâcher-prise, alors que d'apparence, c'est un film sur la maîtrise, c'est un film sur le lâcher-prise. Et regarde, comme je m'abandonne à toi, mais les deux s'abandonnent l'un à l'autre pour te montrer tout mon amour, et c'est fou parce que j'ai l'impression de voir ça aussi dans le jeu, chez les comédiens, c'est-à-dire qu'il y a une confiance qui se donne aux uns aux autres quand ils se donnent des répliques parce qu'ils se poussent très très loin et ils donnent à quelque chose, ils donnent accès à une sensibilité, à moi quelque chose qui m'a vraiment bouleversé.
Mais c'est ça qui est beau, et en plus ici là je sens qu'il y a vraiment un truc d'alchimie entre les acteurs qui marche bien parce qu'il fait moins de champ contre champ que d'habitude dans ce film. On a beaucoup en fait de plans où on les voit tous les deux et où il y a cette chose de rythme en fait qui marche parce que les acteurs le prennent en charge. Mais ce qu'il peut y avoir de très très beau justement dans le fait d'utiliser un champ contre champ, c'est de pouvoir raconter le personnage au montage. C'est-à-dire que l'acteur a pu jouer quelque chose, mais si on ne laisse pas le temps à la mise en scène en fait de montrer ce quelque chose qui se développe, tu vas pas pouvoir le voir. Et ce qui est beau dans cette manière de dilater le temps, c'est ce que tu viens de dire là, en fait. C'est que pour avoir accès à ça, il faut un temps qui soit donné pour une action en particulier. C'est-à-dire que pour que le spectateur en fait comprenne une action, il faut lui donner le temps suffisant pour que le spectateur la comprenne, quoi. Et là, c'est vraiment en ça, je trouve, que le montage est réussi. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais souvent, quand tu vois par exemple la liste des nommés à l'Oscar du meilleur montage, il n'y avait pas Phantom Thread dedans. Je comprends pas, c'est-à-dire que généralement à meilleur montage on met les films où il y a le plus de scènes d'action, genre ça serait les scènes les plus dures à monter, et en fait je trouve que un champ contre champ un peu précis dans Phantom Thread, je pense que c'est beaucoup plus difficile à monter qu'une scène d'action dans Baby Driver, tu vois. Mais par exemple
on est d'accord là-dessus, mais voilà, il a gagné l'Oscar des meilleurs costumes parce que c'était une espèce d'évidence que je pense que
et les costumes sont super et pensés, c'est pas juste qu'ils sont compliqués, c'est qu'ils sont pensés là aussi.
Oui, parce qu'en plus on les trouve super, mais il dit aussi quelque chose de la désuétude aussi de ce personnage, quand même le mot Woodcock, le nom, on en parlait, ça veut dire
bite en bois
ou bécasse, hein, en anglais. Non, mais ça peut être aussi un truc, mais bon, c'est quand même, il a un sobriquet à la place du nom, on se moque là, et on se moque aussi un peu de ce. C'est pas le plus grand couturier du monde, loin de là, c'est-à-dire qu'on est à la fin d'une ère. À la fin, les femmes veulent plus. Il en perd quand même de clientèle. C'est pas le sujet du film, mais quand même, on est à la fin de quelque chose. Et les costumes là-dessus sont. Je les trouvais pas si spectaculaires que ça. Ils sont extrêmement. Les costumes sont très bien, mais il en fait pas 3 tonnes en fait. Il est très juste dans la proportion. Je pense que.
Ils sont très guindés, les costumes aussi.
Ils sont très guindés. Je trouve qu'effectivement, les couleurs, c'est extrêmement. Quoi, tout est bien choisi, tout est très beau, mais. On n'est pas, ils cherchent pas à nous ils cherchent pas à nous plaire. Ils sont juste avec le temps, avec le personnage, mais c'est pas des costumes qui vont nous en mettre. Par exemple, je pense à Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique, c'est des costumes qui sont faits pour nous plaire aujourd'hui, aux spectateurs aujourd'hui de 2015, mais qui sont pas les costumes des années 20, pas du tout. On reprend l'idée d'eux. Mais c'est pas on va en faire des années 2000. Là, pas du tout. On cherche pas du tout à montrer des costumes qui pourraient être au goût du jour. Ou en tout cas, on va pas les rendre séduisants. Voilà. Ces costumes ne sont pas séduisants. Ils sont beaux, mais pas séduisants.
Mais en fait, je pense qu'ils sont. C'est vrai que c'est assez beau ce travail sur le costume parce qu'il montre un peu les limites de Woodcock en tant qu'artiste et artisan. Il habille des femmes, il les habille pour elles, il a porte l'attention exacte à la personne qui est face à lui, et c'est vrai qu'on voit son travail de couturier à ce niveau-là, mais très vite on comprend qu'en fait il n'impose pas sa vision.
Non, mais il y a pas une, en fait, il y a pas une relecture moderne. On sent que ça limite et on sent qu'il va être dépassé par les Saint-Laurent. Voilà, voilà, on dit souvent, moi j'ai lu dans la presse et dans les critiques qu'apparemment il faisait référence à Balenciaga.
Ouais.
Mais oui, c'est tout à fait cette époque-là, et on sent qu'effectivement c'est la fin de quelque chose qui va bientôt être cassé. En fait, les femmes vont porter des pantalons, quoi. Il va y avoir des, on sera plus dans un dans une robe de cérémonie.
Et d'ailleurs, en fait, souvent les messages que les costumes ont, si messages il y a, les messages que les costumes ont à faire passer, ils les coulent littéralement à l'intérieur du tissu. Mais le vêtement garde l'image qu'il doit avoir. Alors qu'après cette période-là du costume, on va commencer à faire porter le message à l'extérieur du costume. C'est-à-dire qu'à ce moment clé où les femmes décident de porter des pantalons, on porte des pantalons parce qu'on est une femme indépendante, on montre là. En portant un pantalon. Alors que peut-être que Woodcock aurait juste écrit indépendance
là,
à l'intérieur
encore, du costume. Là, encore une fois, en fait, c'est proche de, je pense, ce que aime Paul Thomas Anderson. C'est-à-dire que si tu le compares à son cinéma à lui, tu remarques que le dernier film qu'il a fait qui se passe à l'époque contemporaine, c'était Punch Drunk Love,
oui.
2003. Donc c'était avant que les portables soient vraiment répandus partout. Mm-hmm. C'était avant avant l'ère
Facebook,
du smartphone,
avant
Facebook et tout ça. À partir du moment où Internet commence à être très présent,
2007, c'est 2007.
C'est
hein,
ça. Ça l'intéresse plus. Mm-hmm. Et du coup, maintenant, il fait que des films qui se passent dans le passé parce qu'il a pas envie de ça dans ses films. Il a pas envie de travailler ça. Il tourne encore en pellicule. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il est un représentant. C'est très moderne, les films qu'il fait. C'est beaucoup plus moderne que la plupart des choses qu'il veut. Mais le monde moderne l'intéresse
c'est
pas.
Ça, par contre, la modernité de cette relation, elle est là, elle est présente et elle est accessible.
Mais en fait, c'est ça. Et ce qu'il dit, c'est que lui, ce qui l'intéresse, et il y a, je pense que ça vient de sa bouche. À un moment, il y a un passage où sa sœur lui dit que des clientes sont parties parce qu'elles veulent quelque chose de plus chic. Et là, Daniel Day-Lewis rentre dans une colère noire en disant What is fucking chic?
Ouais.
En disant qu'est-ce que c'est ce mot? Je sais pas ce que ça veut dire, j'y comprends rien, et j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson, il a quelque chose de ça, c'est-à-dire que ce qui est à la mode, ce qui est tout ça, ça l'intéresse pas.
Ah non,
des masses.
Il a pas peur de passer pour un ringard,
en fait.
Alors
ouais.
Que ces films ne le sont vraiment pas.
Non.
Je pense que voilà, Paul Thomas Anderson, au contraire, à la limite, on pourrait le limiter même à ce côté un peu esthétique, cet amour de la pellicule. Et en plus, souvent les gens retournent vers la pellicule. La plupart des gens, moi, dans le travail en tout cas, qui me parlent de pellicule, c'est souvent les jeunes réalisateurs parce que ça les met dans une catégorie, ça leur permet de rentrer dans le cinéma en fait, et de faire du cinéma avec de la pellicule. C'est voilà, c'est pas quelqu'un. C'est pas mon voisin qui va. C'est l'outil différent que celui de mon voisin avec son téléphone portable et sa caméra en fait. Donc il y a un besoin aussi de s'affirmer avec l'utilisation de la pellicule, mais qui souvent est pas très intelligemment, enfin, on s'en fout. Ça va plus limiter finalement dans la façon de produire un film aujourd'hui que l'épanouir. Mais on a besoin. Mais là, Paul Thomas Anderson, c'est pas de la coquetterie du tout.
Mais
on n'est pas chez Tarantino qui veut faire référence à certains films et qui veut aussi s'inscrire dans une. Tu vois.
Ce qu'il aime bien aussi. C'est, je l'ai entendu en parler, c'est le fait en fait qu'il y ait du temps limité dans un magasin de caméras en pellicule, c'est-à-dire il y a une dizaine de minutes, grosso modo.
Alors faut le savoir, en numérique aussi, hein. Quoi, faut.
Mais grosso modo, la manière dont il le disait, c'est il disait par exemple, si j'ai un magasin de 10 minutes que j'ai une prise qui fait 2 minutes, ben, dès le début, je dirais aux acteurs, on va faire 5 prises. Et ensuite, des fois, il disait, mais des fois, on se trompe un peu, à la fin, il reste qu'une minute trente, et du coup, je leur dis, ben, on refait une prise, mais vous faites plus vite, faut que ça rentre dans les 1:30. Et il dit, c'est souvent les prises que je garde, d'ailleurs.
Mais c'est important
donc,
de travailler dans la contrainte.
Il aime bien les limites,
et
tu vois.
En fait, on pourrait le faire aussi, je suis désolée, on pourrait aussi le faire avec les cartes qu'on choisit, parce que.
Sauf que là, tu les mets dans un disque dur et tu reprends plutôt. Enfin, tu
bah oui,
ce
mais
dire,
on met, je suis désolée, la pellicule, on la met dans un. C'est pareil, en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est exactement pareil. Je suis désolée. Ce qui est important, c'est le respect des gens et même des équipes techniques. La pellicule, tout de suite, il y a cette espèce de magie du cinéma qu'on n'a pas. En fait, on a une très mauvaise. On pense que les caméras numériques, il suffit d'appuyer sur play. En fait, ça s'est extrêmement complexifié. Sur un plateau, ça n'a pas du tout simplifié un plateau, ça l'a extrêmement complexifié. Alors qu'en plus, je pense qu'en tournant sur la pellicule, avec de la l'exposition du film et la lumière est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de... aujourd'hui, sur un plateau, vous allez voir des gens à l'image qui sont quasiment des informaticiens, mais vraiment pour traiter le... Parce que c'est extrêmement fragile, hein, le signal aussi. Quoi, alors qu'avec la pellicule, il y a... Et puis les, quand on peut dire à un comédien et il va l'entendre, attention ma bobine elle va faire 5 minutes, alors qu'il va pas, c'est, ça va ouais. beaucoup moins être compris avec une carte mémoire ouais. en fait.
Et c'est des alors limites c'est plus des... claires en fait.
Oui, on a
d'où,
l'impression.
D'où on revient encore
au physique. Et puis je pense qu'aussi en pellicule on peut aussi beaucoup moins éclairer. Il y a une façon d'éclairer qui est peut-être plus naturelle. Moi j'ai eu un des premiers films que j'ai eu l'occasion de produire et j'ai découvert ça un peu étrangement. En fait on n'avait pas d'argent et tourner en pellicule nous a fait gagner de l'argent. C'était aberrant mais dans un... il faudrait le développer, mais on a vraiment vraiment gagné de l'argent parce que en fait une bonne exposition va pouvoir remplacer, et je fais des énormes raccourcis, ouais. le pauvre chef opérateur qui va m'entendre, il va mourir, mais c'est pas dans l'idée qu'avec la pellicule on n'a pas besoin de projo, bien au contraire, mais en tout cas on peut bien exposer, et d'ailleurs dans ce film là on rappelle que c'est quand même Paul Thomas Anderson qui a fait son image, parce ouais. que son chef opérateur, et je pense que c'est possible parce qu'il tourne en pellicule, parce qu'il y a quelque chose qui est plus direct, qu'on peut maîtriser ça, cette exposition d'ailleurs on le sent, hein, c'est moins cadré que d'habitude. Moi, je trouve ça très beau. Hein, mais
Oui, il y a même des moments où on pourrait dire que...
Oui, ben dans la surexposition.
Dans la surexposition ouais, ou les choses comme ça, il y a des choses où on pourrait dire mais là, c'est brûlé, en fait, oui. la pellicule ou
moi,
tout ça.
Beaucoup,
mais moi, j'aime bien ouais, aussi. En fait, ça participe à l'ambiance du film, clairement.
Oui, mais clairement aussi, il y a aussi une économie. Et je pense que c'est ce choix-là. Moi, je reste persuadée que c'est aussi un choix de dire la pellicule, ça va nous permettre aussi de tourner autour des comédiens. Et de pas... je pense que c'est un parti pris. Bon, bah, je vais brûler, je vais peut-être mettre moins de projecteurs, il y aura moins d'installations, mmh. je perds mon chef-op. Mais ça donne un cachet au film qui est absolument hallucinant. Mmh. Bon, après, ça reste quand même de la grande, grande image. Hein. Faut pas déconner. Hein.
Non, mais
je pense que la scène
de
demande en mariage...
Il est
la composition, quoi. Il y a quand même une composition dans le film qui est assez bouleversante. Hein,
ouais. Ouais, ça, c'est l'amour et du coup l'art aussi s'exprime dans les limites, les contraintes, et c'est pour ça que c'est un bon film d'amour réussi, parce que dans un monde où beaucoup de choses sont possibles, et en amour aussi, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est plus de liberté, on va pas cracher dessus, mais dans un monde où beaucoup de choses sont possibles, se choisir des limites et les tenir, c'est une forme d'accomplissement en amour, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films qui traitent de ça, qui font des gros succès populaires, parce que ça parle aux gens de choisir des limites en amour, c'est une forme d'expression et d'épanouissement, et aussi dans l'art d'ailleurs.
Et d'ailleurs, c'est je me suis fait la remarque à un moment, parce que je pense qu'on regarde souvent les films, les comédies romantiques, l'argent est au cœur. Il y a quand même une question, il y a le milieu et l'argent est vraiment... Et là, il n'en est jamais question. C'est-à-dire qu'il ne va pas... normalement, chez Cendrillon, parce que c'est quand même l'histoire de Cendrillon au départ, il y a toujours le moment où on va montrer à quel point elle a tiré le gros lot, parce qu'il peut l'emmener en vacances, comme ça, il faut déboter, il va lui faire... Tu vois, il va lui montrer la vie de princesse.
Ouais, parce que... Ouais.
Bah, il n'en est jamais, jamais question. Mmh. En fait, elle travaille.
Elle
travaille. Et
on la voit avec sa blouse
elle va se faire respecter comme une employée, ouais. parmi les employés. Donc,
d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'elle fait tout. Hein. Oui. Elle est à la fois couturière, mannequin...
C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. On n'est pas du tout dans un... Et montrer aussi qu'on peut construire un couple, parce qu'on est omnibulé en ce moment. On est dans une époque où l'argent a pris une importance colossale, puisqu'on a créé tellement de besoins qu'on a créé aussi un besoin d'argent extrêmement fort pour être heureux. En tout cas pour correspondre
et l'amour n'échappe pas
à l'argent. Je pense que l'argent est devenu vraiment de plus en plus, parce qu'on peut pas en tout cas on va se sentir extrêmement vite frustré quand il y a
c'est un facteur de vie amoureuse
et je trouvais que il y avait un très beau geste d'essayer de reconcentrer cette histoire d'amour sur cette histoire d'équilibre.
Ouais. D'ailleurs,
et d'équilibre entre et de plaisir. Et le plaisir est au cœur du film. Et
c'est aussi ce que je trouve assez audacieux dans le film, c'est le traitement en fait de ce sujet. C'était déjà, moi je me souviens quand The Master était sorti, il y avait des gens qui lui avaient reproché en fait de pas avoir condamné la scientologie dans son film. Et j'ai envie de dire, ouais, mais c'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est de montrer la société dans laquelle la scientologie est possible. Et de montrer ses rapports de domination, de montrer Ron Bard, en fait, tel qu'il le voyait. Et en fait, ça l'intéresse pas de condamner quelqu'un. Et de la même manière, ici, on a un type qui est clairement dans une volonté de domination, qui, au début, en tout cas, est montré comme un ogre. Et bizarrement, quand t'arrives à la fin du film, quand l'équilibre est trouvé dans la relation, t'arrives plus tellement à le voir comme ça, en fait, le type, quoi. C'est...
Et c'est je trouvais ça très beau de nous parler, en tout cas d'aller vers là. ça me manquait. C'est ce qui fait. Par exemple, on a beaucoup parlé de La La Land à la même période l'an dernier, qui est devenu comme ça le nouveau. Le nouveau tube de comédie romantique, hein, oui. faut le dire, et on me dit ah, c'est génial, oh, il a fait une comédie romantique où ça se finit mal à la fin, ou modernité, ou génie, non, nul, nul. Moi j'ai arrêté La La Land avec bon. Ok. J'ai arrêté La La Land au moment où l'histoire d'amour justement s'est cristallisée autour de quoi. Elle discute, il y a une scène où ils sont chez eux, et elle parle à sa mère de la situation financière de son amour, et on sent vraiment que c'est hyper important. Et là où, normalement, effectivement, Demi, pour moi, avait réussi à parler effectivement des contraintes économiques, c'est-à-dire que bah, il faut quand même pour faire un enfant. Mais là, il parlait d'une mère-fille dans une certaine époque et d'un homme qu'on envoyait à la guerre. Damien Chazelle, lui, il parle juste de ah oui, c'est quand même important que l'homme ramène tu vois un bon rôti chaud à la maison, quoi. Tu vois, il faut qu'il aille.
Ce qui est d'ailleurs aussi désolant dans les autres comédies romantiques qui veulent essayer d'explorer le genre du rapport amoureux de dominant-dominé, c'est que systématiquement, que ce soit dans Twilight ou dans comment ça s'appelle, Fifty Shades of Grey, le mec vient et noie la meuf sous l'argent, mais il la noie littéralement. Alors que là,
il doit gagner.
Mais surtout, alors que là, non, l'argent est mis hors des limites du contrat et du domaine amoureux qu'il y a dans cette histoire. Quoi.
La grande différence en fait entre La La Land aussi et ce film, c'est que donc dans La La Land, pour faire un parallèle vraiment avec l'histoire, c'est au début on a Emma Stone qui n'aime pas le jazz. Et comment il s'appelle déjà
Ryan Gosling,
lui qui aime le jazz. Et en fait, à partir du moment où ils se mettent ensemble, elle se met à aimer le jazz. Et il y a même une discussion où elle lui dit, mais tu sais, on a tout le monde, grosso modo, tout le monde n'a pas à comprendre ça, etc. Et lui dit, mais si, mais toi maintenant tu aimes le jazz parce que je t'ai expliqué comment on aimait le jazz. Sous-entendu, en fait, pour qu'une femme aime le jazz, il faut qu'un homme lui explique.
Oui.
Et
non, mais il y a beaucoup de problèmes dans La La Land. Hein. Et tous les soulever en même temps.
Merci Arnaud. Et ensuite, la deuxième chose, ben, t'as le droit de pas aimer le jazz.
Et ça c'est te pas, rend pas moins aimable.
Voilà,
en fait.
Et c'est pas une question de pas comprendre. Tu peux ne pas aimer le jazz. Il y a des gens qui n'aiment pas le jazz. C'est comme ça. Et de la même manière, si tu fais un parallèle avec Phantom Thread, la scène où en fait elle refuse d'aimer le tissu que lui dit d'aimer le mec. Et où elle dit, mais je vais garder mes goûts.
Ouais.
Ben en fait je trouve ça beaucoup
et
plus je
tu vas m'aimer,
je
tu, vas
ça...
voir, tu vas m'aimer
c'est
avec
ça.
Mes goûts
c'est beaucoup plus libre, moderne
mais
et équilibré que La La Land, mine de rien, en fait.
Mais c'est tellement un conservateur, parce que c'est un film tellement conservateur que j'ai plus de mots pour le décrire. Mais et je trouve que c'est le problème, c'est que les La La Land, on en a tout le temps, en fait,
et surtout moi ce qui me choque, c'est que les La La Land, les Twilight et les Fifty Shades of Grey ont l'apparence de la modernité, alors qu'en fait c'est ultra rétrograde, ces histoires. Alors que finalement un film qui se passe dans les années 50 avec un homme qui engage sa nana pour travailler chez lui et qui la relook et qui te la refond complètement en mode Pygmalion pour vivre chez lui et sa sœur est beaucoup plus moderne parce qu'il dit de l'amour, parce qu'il dit de des relations entre un homme et une femme, qu'elles sont faites dans le libre arbitre et en fait dans la... C'est de choisir les limites qu'on s'est choisi, jamais les limites que la société ou que ce que tu penses que je devrais avoir. Quoi.
Et surtout de ne pas se limiter, en plus, de trouver aussi la forme qui leur correspond à eux deux et que ça soit de se faire quasiment mourir régulièrement. Si c'est ça qui vous fait prendre votre pied, allez-y. Et c'est tellement un discours que j'ai plus dans les comédies romantiques, que je n'ai pas retrouvé des comédies romantiques.
Et j'adore cette petite pointe d'humour où, à partir du moment où ils trouvent cet équilibre, en couple, il y a une ellipse et elle pousse un landau, tu sais. Comment la famille se crée autour de cet équilibre retrouvé, quand même.
Et comment, moi, en tant que spectatrice, j'applaudis.
Oui,
je dis, mais oui,
bravo,
c'est ça
qu'il fallait faire. Depuis le début, il fallait l'empoisonner.
À éliminer tout le jugement moral qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est bien, pas bien, sale, beuh, qu'il y a dans Fifty Shades. C'est un film qui se pose tout le temps la question de est-ce que c'est bien ou pas de mettre une fessée à quelqu'un. J'ai envie de dire, si la personne, elle a rien contre que tu lui mettes une fessée à ce moment-là, on n'a pas un film en feu,
J'avais vu une interview de Paul Thomas Anderson où t'as un journaliste qui lui demandait ça, qui lui disait, mais vous croyez que c'est moral quand même qu'elle l'empoisonne? Et il savait pas quoi répondre, il était là, genre, je m'en fous en fait.
C'est pas ça que j'espère.
Bon, on a tout dit?
Bah, on aura plein de choses à redire un jour dessus, hein.
Ouais, non mais je crois que c'est un film qui nous a plu à tous, donc On vous conseille d'aller le voir. Qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez nous suivre sur Facebook, 3ème rang, sur Twitter, sur Instagram. Si vous avez des commentaires à nous envoyer, vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse email. Vous verrez tout ça dans les descriptions en dessous. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Très certainement.
Gros poutou.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.